Les grandes expéditions scientifiques. Paul-Émile Victor, Arnaud Contreras, Anna Smuk. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une escale polaire de la série Les grandes expéditions scientifiques. Nous vous emmenons pendant une heure en Arctique et en Antarctique à la rencontre de l'explorateur, scientifique, ethnologue et écrivain Paul-Émile Victor. À nos côtés, pour parcourir la banquise, Daphné Victor et Stéphane Dugast, auteurs du livre Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain. Départ immédiat vers les terres esquimaux, en chants et poèmes.
Les poèmes esquimaux. Quand le ciel au nord s'assombrit, quand le ciel au nord se couvre, comme d'une vareuse, comme d'une vareuse. Quand la lumière décroît, quand la lumière disparaît, comme sous une vareuse, comme sous une vareuse. Je pense à mes petits-enfants, je pense à mes pauvres enfants, et tout est sombre, comme dans une vareuse, comme dans une vareuse.
Bonjour Daphné Victor et Stéphane Dugast. Qu'est-ce que ce chant convoque comme image de Paul-Émile Victor ? Daphné Victor.
Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une photo de lui que j'ai retrouvée récemment pendant son premier séjour au Groenland, sur la côte est du Groenland en 34-35, où on le voit dans une sorte de pénombre éclairée simplement par une fenêtre. Et il y a un appareil à disque. À l'époque, c'était sûrement des 78 tours, bien sûr, parce qu'il avait réussi à emporter du matériel pour enregistrer les chants esquimaux, comme on disait à l'époque. Et il y a cette photo où il est vraiment in situ à travailler sur les chants qu'il a enregistrés, à les retranscrire phonétiquement. Il les fera ensuite traduire, etc. Voilà, ça, c'est ça l'image qui me vient à l'esprit.
Stéphane Dugast.
Ben moi, l'image, sont sensiblement les mêmes que Daphné, parce que je ne vais pas réécrire l'histoire, mais ce qui est touchant, en tout cas en écoutant tout ça, c'est que c'est un explorateur, Paul-Émile Victor, qui va voir les Esquimaux, qui les photographie, qui les enregistre, et surtout derrière, il fait tout un travail de traduction sur leur tradition, sur leur chant, et c'est une civilisation que plus tard il appellera la civilisation du phoque, et une civilisation qui va complètement disparaître avec la Seconde Guerre mondiale et l'occupation américaine du Groenland, qui va entrer dans une modernité en très très peu de temps, et grâce à Paul-Émile Victor, grâce à ses compagnons, et grâce à ces techniques qui étaient novatrices à l'époque, on est au mi-temps des années 30, on va avoir cette trace, et je pense que dans ces disques, dans ces musiques, on entend cette magie esquimaux.
Alors si on veut présenter l'explorateur Paul-Émile Victor, quelques éléments biographiques.
L'explorateur Paul-Émile Victor, c'est d'abord un homme. Et c'est un homme qui, en fait, naît dans une famille émigrée d'Europe de l'Est. Sa propre famille ne le savait pas. On l'a découvert après sa mort. Il est mort en 95. Grande famille d'avocats et d'industriels immigrés en France pour la réalité à l'époque économique de la France, la réalité aussi humaniste, les droits de l'homme, tout ça, beaucoup d'étrangers en rêve. Et c'est un homme aussi qui est élevé dans une toute petite ville de province. Donc avec un côté un petit peu petit, justement. Et est-ce que c'est par nature qu'il est passionné de lire l'illustration, de lire Jules Verne, etc. Il rêve de voyage. Mais son destin n'est pas là. Mais par contre, pour raccourcir un peu l'histoire, en 1930, 31, 32, il n'en peut vraiment plus. Il ne peut pas rester à Lons-le-Saunier. Il ne peut pas rester dans le Jura. Et son père lui ouvre finalement la porte de la cage dorée de l'usine paternelle pour lui dire « Écoute, va à Paris et fais ton chemin. » Donc c'est un explorateur, mais c'est d'abord un homme qui a des envies et une notion assez tôt que de toute façon, il ne sera pas le successeur de son père à la tête de l'usine de pipe paternelle. Même si ça le dérange beaucoup, il sort de ce tiroir-là, comme c'est une de ses expressions, pour aller voir ailleurs et se construire ses rêves, en fait.
Alors, il va où ? Qu'est-ce qu'il poursuit comme étude ?
Paris. Il vient à Paris. Il a un bac maths, il a un bac philo. Enfin, il a fait des études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Parce que comme il était très bon en lettres, il a convenu avec son père qu'il fallait qu'il fasse des sciences. Il passe pas le diplôme parce qu'il a un concours d'entrée à l'école de la marine marchande, toujours le voyage. Donc il prépare ce concours de l'école de la marine marchande à Marseille. Il le prépare en 3 semaines, il l'obtient. Il est très déçu par la marine, par les voyages. Il revient à Lons. Et en fait, quand il part à Paris, ben, il y part sans trop savoir ce qu'il va y faire. Et avec lui, souvent, les planètes s'alignent assez facilement. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et un ami de la famille lui dit, écoute, t'as cherché un petit peu ce que tu vas faire, tu sais pas. Voilà un livret de l'étudiant, tu regardes ce qu'il y a là-dedans. Et il découvre une science qui n'est pas très nouvelle, quoique assez récente, c'est l'ethnologie. Il n'en avait jamais entendu parler. Et il se rend compte que, en fait, il faisait de l'ethnologie sans le savoir. C'est-à-dire que quand il était adolescent, il découpait les journaux, l'illustration et autres revues auxquelles son père était abonné. Il faisait des fiches sur les Maoris, sur les Esquimaux et sur les peuples, comme ça, sur des lieux, plutôt l'Arctique et puis plutôt le Pacifique, plutôt les lieux que les peuples. Mais quand même, il était intéressé par tout ça. Et donc, il se dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire.
Et le destin est un peu bousculé. Il nous raconte cela au micro de Luc Bérimont en 1956. Il évoque sa première rencontre avec le commandant Jean-Baptiste Charcot.
Une première question, Paul-Émile Victor. Il y a eu la première exploration. Et j'imagine que dans vos souvenirs, rien ne pourra remplacer en intensité cette première exploration, cette première fois. Comment l'avez-vous abordée ?
D'abord, j'ai écrit à Charcot pour lui demander s'il m'emmènerait au Groenland, puisqu'il allait au Groenland. Et j'ai, en l'espace de 48 heures, reçu une réponse me disant que Charcot envisagerait volontiers une participation éventuelle à sa campagne prochaine, que pour l'instant la campagne prochaine, c'était en 1934, n'était encore qu'ébauchée dans son esprit, mais que si l'occasion se présentait, Charcot me réécrirait. C'est à cause de ça que je me suis mis à étudier au Musée de l'Homme ce qui avait été fait sur les Esquimaux de la côte est du Groenland, et je me suis aperçu que si certaines faces de leur culture étaient parfaitement étudiées, comme certaines de leurs croyances en particulier, d'autres, leur chant, leur légende et toute leur culture matérielle étaient encore peu connues. Autrement dit, après quelques semaines d'études, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire, en particulier chez les Esquimaux d'Angmasalik sur la côte est du Groenland, découvert en 1885 seulement. Alors j'ai réécrit à Charcot en lui disant que je ne lui demandais plus de m'embarquer à bord de son navire pour une campagne d'été, mais de bien vouloir, s'il le jugeait possible, me déposer sur la côte est du Groenland chez ces Esquimaux-là, pour y rester un an et pour étudier pendant un an ces Esquimaux. Alors j'ai reçu une réponse également, 48 heures plus tard, en me donnant un rendez-vous à l'Académie de Marine pour une certaine date. Finalement, j'ai exposé mon plan à Charcot. Il m'a répondu qu'il n'allait jamais à Angmasalik, que jusqu'à là, il n'était allé qu'au Scoresbysund, que j'avais du culot de lui demander de faire un tel détour sur son programme habituel. Et puis, il m'a regardé pendant un très long silence qui m'a paru éternel. Puis ensuite, j'ai vu un sourire dans ses yeux. Il m'a dit, bon, ben, c'est entendu, je vous emmène. Ça a été aussi rapide que ça. Et c'est ça qui a déterminé, finalement, tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire, depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui, toutes les expéditions polaires que j'ai pu faire moi-même ou que j'ai pu organiser moi-même.
Paul-Émile Victor qui évoque en 1956 le commandant et explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot. Stéphane Dugast, en quoi Charcot est eu un personnage central dans la vie de Paul-Émile Victor ?
Alors d'abord, on l'a entendu, c'est une belle histoire, une très belle histoire, une belle rencontre. Et il faut imaginer un jeune homme, 26, 27 ans, qui va avoir le culot d'aller voir Jean-Baptiste Charcot, qui incarne l'exploration polaire, qui est un sexagénaire, qui a son propre bateau, qu'il a mis à disposition de la Marine nationale, le trois-mâts vapeur, le pourquoi pas, et ce jeune Paul-Émile Victor, qui, grâce à un oncle de la famille, va avoir cette entrevue avec Jean-Baptiste Charcot, et là où toute la science et tout le talent de Paul-Émile Victor, c'est qu'il a travaillé son sujet avant d'y aller. Il a étudié les parcours, il a étudié les possibilités, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il a un but, il a un objectif et il veut l'atteindre. Sauf que ce but, on l'a entendu, Jean-Baptiste Charcot, c'est pas sur un Massalik qui va, c'est Oscar Esbison. Et pour cause, puisqu'il y a une barrière de glace qui ceinture le Groenland en été, il y a des glaces qui dérivent, il y a des icebergs, et autant c'est plus facile d'aller Oscar Esbison qui est un petit peu plus au nord, et autant à la baie d'Amassalik, c'est compliqué. Mais Paul-Émile Victor, à que cela ne tienne, n'a qu'un seul objectif, va convaincre Charcot, qui d'ailleurs l'appellera le phénomène. Et ce que ne dit pas Paul-Émile Victor, c'est que non seulement Charcot va le prendre lui, mais que Paul-Émile Victor va demander à Charcot d'emmener trois de ses camarades, et parmi ses camarades, un Suisse, ce qui va au départ embêter Jean-Baptiste Charcot parce que ça complique un peu les choses, et surtout un cinéaste. Et Charcot est de la vieille école de l'exploration, c'est-à-dire qu'on fait de l'exploration de façon assez désintéressée, on le fait, j'allais dire désintéressé, on le médiatise pas. Et Paul-Émile Victor est en train de poser les bases de la médiatisation de l'exploration, avec un rapport évidemment un peu mercantile, parce que Paul-Émile Victor, pour monter cette expédition, il a besoin de partenaires, et il sait qu'en faisant des photos, en faisant des films et en le diffusant après, c'est un cercle très vertueux qui va se mettre en place. Et l'ami Jean-Baptiste Charcot, ce vieil explorateur avec cette barbiche blanche, un peu jaunie par les gitanes qu'il fume, le crâne dégarni, ce marin par excellence, est un petit peu réticent. Et Paul-Émile Victor va remporter la mise, embarquer sur le trois-mâts vapeur, le pourquoi pas. Et cette première expédition au Groenland, ils vont y arriver in extremis, on le raconte dans la biographie, ça s'est joué à peu de choses, va permettre à Paul-Émile Victor de faire un premier séjour chez ces Esquimaux, qu'on connaît finalement très très mal, et de s'y intéresser, mais il va s'y intéresser dans des conditions assez, entre guillemets, luxueuses. Et il y retournera, et là, il va hiverner au sein d'une famille Esquimaux, et même tomber éperdument amoureux d'une jeune Esquimaux, d'Oumidia, et vivre, j'allais dire, en quelques mois, l'aventure de sa vie, qui va tout fonder, puisque ce séjour chez les Esquimaux va l'imprégner à un point qu'il écrira des récits. Il en tirera des photographies, des films, qui vont lui permettre de devenir, dans la France d'avant-guerre, une vedette, on disait à l'époque. Et plus qu'une vedette, c'est quelqu'un qui sait partager. C'est le premier explorateur, ou l'un des premiers en tout cas, qui a compris qu'aller ailleurs, aller vers cet inconnu, vers ces peuples, il fallait aussi savoir le partager, le raconter au plus juste. Et c'est le premier explorateur conférencier. Et d'ailleurs, dans la langue française, si les mots kayak, le moyen de locomotion, le kayak qu'on connaît tous maintenant, l'anorak, sont connus de nous, les Français et les francophones, on le doit à Paul-Émile Victor et ses compagnons qui ont quelque part exporté des mots esquimaux et puis des techniques esquimaudes.
Daphné Victor, qu'est-ce qu'on connaît du monde esquimau, du monde polaire en France dans les années 30?
On connaît relativement peu de choses. C'est une île qui est devenue danoise au courant du 19e. Et surtout, la côte Est a été découverte assez récemment par rapport au début des années 30 dont nous parlons actuellement. Comme mon père le disait, c'est 1885. On connaît peu de choses parce que, comme toutes les colonies, éventuellement les Danois connaissent un peu, mais ce sont des missionnaires, ce sont quelques scientifiques, mais relativement peu. Je tiens à dire d'ailleurs que j'ai lu plusieurs fois que la colonisation à la Scandinave, ou en tout cas à la Danoise, était assez respectueuse des cultures. Alors il y a une évangélisation, ils sont déjà tous quasiment protestants à l'époque où papa séjourne là-bas, mais ils sont assez respectueux des cultures et des habitudes. Maintenant, en France, je pense pas me tromper en disant qu'on ne connaît rien. Enfin, les expositions universelles de ces années-là continuaient à montrer éventuellement des Africains ou des Indiens, peut-être pas encore dans des cages comme à la fin du 19e, mais c'est tout juste. On commence à libérer un petit peu justement cette idée effroyable de mettre des hommes, les montrer comme des chiens savants ou curieux en tout cas. Mais les Esquimaux sont pas connus de la France. Il y a pourtant un musée d'ethnographie.
Alors, quand Paul-Émile Victor évoque le fait qu'il a étudié, et Stéphane Dugast vous le confirmait, qu'il a étudié avant d'aller rencontrer Charcot, sur quel matériau est-ce qu'il a pu étudier les populations du Grand Nord?
Pour compléter ce que vient de dire Daphné, c'est totalement vrai. Le Groenland et les Esquimaux sont très peu connus. En tout cas, sur la côte Est, ils ont été connus 50 ans au préalable. Et ce qu'ont fait les Danois, c'est qu'ils ont pris les enseignements de cette conquête complètement désastreuse de l'Amérique du Nord et des tribus indiennes, c'est qu'ils ont un petit peu mis tout ça sous cloche et ils n'ont autorisé comme homme blanc, si j'ose dire, que les ethnologues et les scientifiques à aller sur place de façon à garder, préserver ces Inuits, ces Esquimaux, et surtout les préserver des maux de notre société moderne, c'est-à-dire des épidémies, de l'alcool et du tabac. Et quand Paul-Émile Victor arrive sur cette terre qui est pratiquement pas vierge, mais presque, il s'est beaucoup basé sur les travaux des Danois, puisque les Danois ont étudié les Esquimaux de la côte orientale du Groenland avec un dénommé William Talbitzer qui va même faire un dictionnaire. Et Paul-Émile Victor s'enferme à la bibliothèque du Musée de l'Homme durant l'hiver 1933. Il part pas en vacances, il fête pas Noël ou pratiquement très peu, et il bosse comme un fou sur ses dictionnaires. Il a ce talent aussi, Paul-Émile Victor, d'être très aisé avec la pratique des langues. Il parle l'anglais, il parle l'allemand, il va vite apprendre à parler le danois. Et il va en plus, parce que quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens, aller à Copenhague, voir les grands spécialistes, pour se faire introniser, puisqu'il y a juste eu une expédition polaire française en 1932, pendant l'année polaire internationale, qui était au Scores Bison, plus au nord, mais qui a tourné au fiasco le plus absolu, puisque les Français se sont mal comportés en hivernant quelques mois sur place. Et Paul-Émile Victor doit, grâce à Charcot, va réacquérir les lettres de noblesse. Et les Danois, qui décident de tout, vont autoriser ce dénommé Paul-Émile Victor et trois jeunes de ses compagnons à aller sur place. Et sur place, c'est là qu'il va en retirer toute la quintessence de cette civilisation qui a survécu dans un des endroits les plus hostiles de la planète, puisqu'il y a ni plantes, ni légumes, ni arbres, et que le seul moyen de survivre, c'était de chasser le phoque, de pêcher en été, et éventuellement de pouvoir avoir des baleines échouées, puisque la baleine étant tellement grosse, ils n'arrivaient pas à la chasser au harpon. Et déjà, dans les années qui viennent de s'écouler, les baleiniers ont vidé, si j'ose dire, l'océan arctique glacial. Donc les populations esquimaux, quelques décennies, même pas 10-15 ans après les séjours de Paul-Émile Victor, au préalable, ont vécu des famines, ce qui a imprégné cette société. Donc c'est une société totalement vierge et qui est totalement à apprendre à connaître, mais qui va nous en apprendre beaucoup sur notre manière de nous comporter, parce que je pense qu'une civilisation qui arrive à survivre depuis des millénaires qu'avec sur la glace, dans un des univers les plus minéraux, les plus froids, les plus humides, nous en dit beaucoup sur ce qu'on doit faire.
Alors nous allons écouter maintenant un extrait d'un film de 1947 qui décrit les départs et les missions polaires à l'époque.
Brest, 4 juillet 1932. À l'occasion de l'année polaire internationale, la France envoie une mission scientifique s'installer au Groenland. La marine délègue le Pollux, 2500 tonnes, un vieux brise-glace mouilleur de mines qui ravitaillait la Russie pendant la guerre de 14. Et c'est bien sûr le pourquoi pas, le célèbre pourquoi pas du commandant Charcot, qui escortera la mission jusqu'aux glaces du Grand Nord, après quoi, là-bas, au bout de la mer, 15 Français resteront prisonniers des glaces pendant un an. En quelques jours, le débarquement des vivres et du matériel sera fait. Il faut de tout pour vivre un an loin du monde, de la farine comme de l'essence, de l'hydrogène comme du ciment, du vin comme des livres. Mais rien n'arrête les savants, ils sont là pour travailler. Dauvilliers fait des dosages chimiques de l'ozone de l'air, il étudie les aurores boréales. Un jour, il sera professeur de physique cosmique au Collège de France. Là, dans cette cabane, Roté étudie le champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, il dirige à Strasbourg l'Institut de physique du globe. Cet homme vêtu de peau d'ours, c'est le lieutenant de vaisseau Haber, chef de l'expédition. Il mourra en service commandé en 1945. Tout là-haut, dans la petite station de montagne, Le travail est difficile. Les hommes y vont, deux par deux, pendant 15 jours, y étudier les radiations solaires en particulier. Mais là, il n'y a pas de chauffage central, juste un poêle pour lutter contre l'hiver polaire. À un mètre de ce poêle, parfois, il fait moins 15 et la boisson gèle dans les tasses. Alors au bout de 15 jours, la relève est la bienvenue. On est content de repartir vers la ville, je veux dire vers le camp de base, où l'on trouvera les autres et la maison, c'est-à-dire la station Paul Doumer, qui porte le nom du président de la République française. Nous sommes en 1932.
Stéphane Dugast, on entend un certain nombre de noms d'explorateurs, plutôt de scientifiques. Comment est-ce que cette communauté scientifique a accueilli Paul-Émile Victor ?
Ben, là, on a entendu que c'était l'expédition de 1932 avec laquelle j'ai pas été très tendre en disant que ça s'était mal passé. Scientifiquement, ça s'est bien passé. Ils ont pu faire les mesures. On l'entend dans le reportage avec cette voix complètement émouvante de Pierre Tchernia. Sur place, ce que ne vous dit pas ce reportage, c'est que sur place, ils étaient très proches finalement des Esquimaux. Ils étaient pas seuls. Ils étaient proches d'un village Esquimaux et ces scientifiques. Je sais pas ce qui va se passer, mais on va un petit peu perdre les pédales. Parce que les amis danois leur ont dit de surtout, évidemment, d'être le plus sympathique possible avec les Esquimaux, de ne pas commercer avec eux en leur vendant de l'alcool. On entend, ils avaient du vin, et ne pas commercer en ayant du tabac, et surtout ne pas avoir de rapport sexuel avec les Esquimaux, parce que ça allait tout bouleverser. Évidemment, nos amis français et le chef de mission Habert a dit oui, on respectera tout. Et sur place, on le sait, dans les expéditions, les explorations, il y a des fois, malheureusement, en tout cas, des choses qui se passent pas comme c'est prévu. Et là, cette expédition va virer un petit peu au fiasco. Néanmoins, je pense qu'il ramène de mémoire, il ramène des observations, mais pas autant que prévu. Donc, les médias retiendront que cette expédition a permis de faire des mesures. En tout cas, je sais que pour Paul-Émile Victor, cette expédition et ses ratés va beaucoup lui apprendre sur la gestion des hommes, et sur la gestion notamment scientifique. Et ces scientifiques sont en tout cas, pour cette mission de 1932, pris un petit peu partout dans tous les ministères. Il faut aussi des gens qui soient taillés pour l'aventure, ce qui n'était peut-être pas le cas en 1932. Des gens robustes, des gens qui aiment la vie spartiate. Et Paul-Émile Victor, quand il créera, lui, après-guerre, les expéditions polaires françaises en 1947, va n'avoir que de cesse et comme objectif d'avoir souvent des montagnards et des gens qui sont habitués aux conditions spartiates et surtout à qui le manque de compagnie féminine effraie peut-être un petit peu moins.
Je me permettrai d'ajouter aussi que, en plus de ce goût du terrain et éventuellement de, on en bave et on aime ça parce que voilà, il y a des gens, hommes ou femmes d'ailleurs, qui aiment ça. On retrouve chez Paul-Émile et qu'il cherche aussi peut-être chez les montagnards et même sûrement un esprit d'équipe, une solidarité. On se tient les coudes, on a un objectif commun qu'il a certainement par nature déjà et aussi qu'il a acquis grâce au scoutisme. Le scoutisme est introduit en France au début des années 10, donc c'est très tôt. Lui, il est tout jeune, mais il va être scout à 15-16 ans. Il va devenir ensuite chef éclaireur. Enfin, on parle des éclaireurs de France, donc protestants. Et il va adhérer c'est vraiment une rencontre, une fois de plus. Il va adhérer au concept et aux valeurs du scoutisme. Et dans une émission très tardive, en 86, je crois, il a donc 80 ans, il reconnaît qu'il a été scout toute sa vie, quoi, en fait. Ça va le lier et le diriger dans ses rencontres et dans ses actions et dans ses valeurs.
Et j'ajouterais qu'il a aussi été marin, donc il a connu... il sait ce que c'est, l'esprit d'équipage. C'est pas un vain mot quand on est en mer. C'est-à-dire que du matelot au commandant, qu'on soit dans la marine marchande ou dans la marine de guerre, tout le monde a son importance parce que si le matelot fait mal son boulot, il peut se passer des choses. Et du coup, cet esprit, le scoutisme, l'esprit d'équipage chez les marins, et puis surtout, les réalités du terrain de ces premières expéditions vont tout de suite le renseigner et lui faire dire qu'il faut, faut une communauté d'hommes, ce qui n'est pas facile du tout, parce que dans la promiscuité, dans la vie spartiate, évidemment, il se passe des choses qui sont... Les nerfs sont vite à vif. Et en plus, Paul-Émile Victor, et on l'écrit avec Daphné dans cette biographie, a un rapport au commandement autant chez les scouts. Ça se passe bien parce que c'est assez consensuel, les enjeux sont moindres. Mais autant quand on est sur le terrain avec une vingtaine de bons hommes et qu'il y a des objectifs et tout devient dur. Et il a un rapport au commandement qui des fois est un peu compliqué, mais néanmoins, en tout cas ses détracteurs vont s'en donner à cœur joie en disant que ce n'est pas un vrai chef. Mais ça, c'est toujours la critique qu'on entend partout dans toutes les sociétés. Mais lui, il y parviendra puisque pendant 30-40 ans, il va vraiment incarner l'exploration polaire. Et non seulement il en parlera dans les médias, mais sur le terrain, il va peaufiner tout ça et être un des leaders.
Ça vous paraît complètement incongru qu'il recrute une femme, par exemple? Parce qu'il y avait d'autres régions de la planète où il y avait des exploratrices sahariennes, des exploratrices en Asie centrale.
Oui, mais c'était des exploratrices qui partaient seules. C'était pas des exploratrices qui étaient engagées par un homme. À l'époque, les hommes n'engageaient pas les femmes. Et même très tard. Parce que, oui, ça m'aurait paru incongru et très injuste s'il avait engagé des femmes. Parce que j'ai toujours voulu partir avec lui. Il m'a toujours dit non. Alors qu'il a emmené mes frères.
Alors comment est-ce qu'il recrutait? Comment est-ce qu'il composait ses équipes pour les explorations polaires, pour les expéditions?
Je pense qu'au début, alors là aussi, c'est pas vraiment du bouche à oreille, mais il a rencontré à Lyon, par l'intermédiaire d'un ami de sa avant-guerre, le professeur, celui qui deviendra le professeur Raymond Latarget, son frère Michel, qui sont des scouts aussi, qui sont des montagnards. Et j'imagine que, pour aller dans le sens dont Stéphane parlait, étant donné le côté très ardu du terrain du Groenland qu'il connaît, en plus il a vécu sur le terrain du polaire quand il est aux États-Unis pendant la guerre, puisqu'il quitte la France et il est aux États-Unis, il est engagé en 42 comme simple GI et ensuite il devient lieutenant, puis il prend il a en charge tout un travail sur l'équipement, les hommes et le matériel du sauvetage des équipages qui crashent leur avion sur le chemin entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est-à-dire au Groenland. Il connaît le terrain et c'est comme ça qu'il a été en fait accepté dans l'armée américaine. Donc tout ça, il connaît très très bien et il sait qu'il ne faut pas des femmelettes, excusez-moi mesdames, mais c'est le terme approprié. Il faut vraiment des mecs qui connaissent ça. Donc il pense forcément au montagnard et Raymond Latarget, qui est un de ses amis très très proches, cofondateur des expéditions polaires françaises avec lui en 47. Pour eux, c'est évident. Donc, c'est l'école de haute montagne de Chamonix. C'est jeunesse et montagne, c'est-à-dire tous ces montagnards qui sont rentrés dans la résistance. Parce qu'il y a ça aussi, il faut recontextualiser. Ce sont non seulement des hommes qui connaissent la montagne, qui l'aiment et qui aiment bien en baver, se coltiner avec la nature qu'ils adorent, mais ce sont aussi des hommes qui sortent de la résistance. Donc, ils se sont coltinés aussi la violence, la résistance, donc des valeurs patriotiques. Voilà, c'est très cohérent, je trouve, c'est vraiment très cohérent.
La dimension scientifique dans le recrutement, Stéphane Dugas, est-ce qu'il va plus vers certaines spécialités, plus vers les sciences humaines ou
C'est tout le hiatus de Paul-Émile Victor, puisque avant-guerre, il est spécialiste des sciences humaines, il est ethnologue, à l'époque il disait ethnographe, il était même ethnographe, il faisait de l'ethnologie, de l'ethnographie amoureuse, c'est beau. Et la guerre va infléchir un peu, même beaucoup son parcours. Puisque après-guerre, quand il revient dans cette France qui est exsangue, qui est dans un état, j'allais dire, qui panse ses plaies, les ponts sont détruits, les infrastructures, les gens aussi sont très divisés, puisqu'on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Paul-Émile Victor va s'enticher d'appliquer les techniques polaires qu'il a apprises avec l'armée américaine, c'est-à-dire que quand on va dans un univers polaire, jusque-là, on y allait en bateau, on prenait ses traîneaux et ses chiens, et tant que bien que mal, on essayait de durer sur la banquise. Mais rapidement, puisque le traîneau a une capacité d'emport assez réduite, le temps sur la banquise était compté. Ceux qui hivernaient, c'était très compliqué. On n'était pas loin des fois du tragique. Et Paul-Émile Victor va comprendre qu'en arrivant en bateau, en ayant des chenillettes, des véhicules motorisés, en parachutant des vivres, du matériel, l'homme va pouvoir durer sur la banquise. Et si l'homme peut durer sur la banquise, il va pouvoir faire des mesures d'observation scientifique sur la longue durée, sur une année. C'est-à-dire que les hivernants vont pouvoir faire des mesures qui seront finalement fiables. Et il va recruter au départ beaucoup plus de scientifiques que de logisticiens, ce qui sera une erreur manifeste, puisque ses premières expéditions au Groenland, il faut imaginer que le Groenland, c'est une île qui culmine à 3800 mètres avec de la glace, comme une crème dessert où toutes les précipitations accumulent la glace. Et pour accéder sur la partie qu'on appelle la calotte glaciaire, l'Inland 6 en termes techniques, mais il faut passer par des passages qui sont très montagnards, d'où d'ailleurs le recrutement de montagnards. Il y a des crevasses, ils ont même amené un téléphérique, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Cette nécessité d'être finalement un cantonnier, d'être un bricoleur, va créer un petit peu des tensions dans le groupe, parce que parmi le groupe, il n'y a que des scientifiques jeunes, mais assez qui vont devenir des gens très confirmés. Il y a des prix Nobel, il y a un dénommé Jean Mallory. Enfin, vous voyez, il y a des gens avec des égos qui sont quand même assez développés, et la glace ne va pas les glacer, leurs égos. Et Paul-Émile Victor va être dans ce hiatus, parce que quand vous dites à un scientifique qui a bac plus 18, bac plus 20, enfin j'exagère, mais tu vas devenir cantonnier, tu vas terrasser et tu vas faire que ça pendant sur 3 mois d'expédition, 2 mois. Donc du coup, il va rééquilibrer les choses, et dans le recrutement des scientifiques, en fait, c'est ça la force de Paul-Émile Victor. Il va être sur les sciences dites dures et il va être très, très novateur parce qu'il va comprendre que la glace, l'observation de la glace, qui n'est pas évident dans les années 40, 50, 60, va nous renseigner sur le climat de la planète. On ne le sait pas encore, mais il va recruter tout azimut et des scientifiques de renom.
Donc, l'Odlurius, évidemment, qui partira dans sa première expédition avec les expéditions polaires françaises en Terre Adélie. En Antarctique.
À l'écoute d'archives, on se rend compte évidemment de l'importance des publications et des découvertes scientifiques. On écoute tout de suite Paul-Émile Victor évoquer cette importance.
Pour la deuxième fois en deux ans, les glaces du Groenland ont revu une expédition polaire française qui, sous la conduite de Paul-Émile Victor, a traversé les 500 km qui séparent la côte ouest du centre du Groenland. Les actualités françaises présentent aujourd'hui les premiers éléments du film rapporté du Grand Nord par Marcel Ischac et Jean-Jacques Langepin. Plus d'une fois au cours de sa progression, la colonne de chenillettes qui amenait les 35 tonnes de l'expédition a dû stopper devant la violence du blizzard qui réduisait sa marche à 10 km par jour. Une fois au but, Paul-Émile Victor a pu donner par radio le signal du ravitaillement aérien. Fidèle au rendez-vous, le Liberator de la mission survolait le lendemain la calotte glaciaire du Groenland pour bombarder la station de vivres, de courriers et de matériel divers. À cet endroit, la couche de glace atteint près de 3000 mètres d'épaisseur et la température demeure même en plein été, toujours au-dessous de zéro. C'est là que les membres de la mission ont construit les igloos où seront installés les appareils de météo, dont les observations renforceront la sécurité des navigations aériennes et maritimes dans l'Atlantique Nord. Après 3 mois d'été passés en commun, partageant les mêmes peines et les mêmes espoirs, les membres de l'expédition se sont séparés. 27 d'entre eux ont rejoint la France, tandis que 8 hommes vont demeurer seuls pendant 18 mois au milieu de l'immensité glacée, seuls avec leur mission.
Cette expédition est une expédition à but scientifique. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, je crois que c'est un point de vue d'ailleurs très général en ce qui concerne les résultats scientifiques. Un résultat scientifique n'a de valeur que s'il est publié. À partir du moment où il n'est plus publié, il n'a plus de valeur scientifique. Il est donc du domaine universel, si je puis dire. Il faut que chacun, où qu'il soit, quelle que soit la langue qu'il parle, puisse avoir recours aux résultats obtenus. Le but donc essentiel de cette expédition, c'est la recherche scientifique, par conséquent, la meilleure connaissance du monde. Les études que nous allons faire portent sur un certain nombre de problèmes scientifiques qui peuvent être résolus très rapidement là-bas, alors que ces problèmes prendraient plusieurs années, quelquefois 10 ou 15 ans, pour trouver leur solution en laboratoire en zone tempérée. D'autres problèmes ne peuvent trouver leur solution que là-bas et ne sauraient trouver leur solution ici. Je dirais en plus que aujourd'hui, il n'y a plus de science pure, c'est-à-dire que toutes les recherches que l'on entreprend peuvent avoir leur application pratique. Ce que nous allons étudier peut aussi bien aider au développement de la radio et à une meilleure écoute et avoir une application en particulier dans le domaine de l'aviation, puisque le domaine de l'aviation aujourd'hui touche à toutes les sciences. D'autant plus que les lignes d'aviation déjà aujourd'hui passent de plus en plus par l'Arctique et passeront de plus en plus à travers l'Arctique.
Daphné Victor, est-ce que le fait que des missions scientifiques et des applications très pratique, très pragmatique, c'était un élément important pour Paul-Émile Victor?
Je pense que oui, d'abord parce que c'était un homme assez pratique et organisé. Merci à lui, d'ailleurs, il nous a, dans la famille, mais beaucoup à moi, transmis involontairement le gène de l'organisation et de la méthode. Oui, il fallait que ça serve à quelque chose. Il a fait des études pour construire ses rêves. C'est toujours, quand il partait marcher dans le Jura, il mettait des cailloux dans son sac à dos pour monter les côtes et les descendre parce qu'il savait qu'un explorateur devait être costaud. Donc, tout est sûrement très, très pratique. D'autant plus, mais je vous parle de l'aspect humain de papa plutôt que vraiment très technique et professionnel, mais d'autant plus que c'est un rêveur, c'est un romantique, c'est un sentimental quasi maladif. D'ailleurs, il en prendra plein à la figure toute sa vie, amoureusement, mais aussi amicalement. Il va être trahi, mais il voudra y croire jusqu'au bout. Enfin bon, donc il sait ça. Et c'est un grand émotif. Il se méfie beaucoup de ses émotions. Il a peur d'être débordé par ses émotions. C'est peut-être pour ça qu'il est très maladroit quelquefois dans ses rapports avec les gens. Je pense que la famille en sait quelque chose. Non pas qu'il était violent, mais il était en tout cas un tease sur le...
On le sent très dans le contrôle, dans les différentes interviews.
Ah, complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut que ce soit, voilà, faut que ça atteigne son but et que ce soit pratique.
Stéphane Dugast.
Et pour compléter sur le registre professionnel, en fait, de faire savoir la science, pour Paul-Émile Victor, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre pour Paul-Émile Victor et pour les expéditions polaires françaises qui vivent des subsides, des subventions de l'État. Et quand on vit des subventions de l'État, peut-être que la première année, on a ces millions qui tombent et ça se passe bien. En plus, ce qui va être très compliqué pour lui, c'est que les deux premières expéditions, et au Groenland et en Terre Adélie, puisqu'il a eu ce talent grâce, notamment, c'est même pas de lui d'ailleurs, on peut rendre hommage à Yves Valette, à Pommier et à Martin, qui ont soufflé cette idée à Paul-Émile Victor de faire des expéditions à la fois au Groenland, en Arctique, au nord, et à la fois en Terre Adélie, que la France avait découverte en 1840 et que personne en France n'y était retourné depuis. Mais il doit publier des résultats scientifiques parce qu'il en va de la survie des expéditions polaires françaises, puisque si les expéditions polaires françaises sont subventionnées par l'État français, il faut produire du résultat. Et Daphné l'a bien décrit, Paul-Émile Victor est quelqu'un qui est pragmatique, qui est ingénieur de formation, et il a compris que c'était le sérieux de son entreprise qui allait la pérenniser. Et malgré tout, il va le faire bien. Et ces hommes qui seront à ses côtés vont le faire excellemment bien, au-delà des dangers, du froid, des crevasses et de plein de problèmes mécaniques avec ces chenillettes qu'ils ont récupérées des Américains. Bref, les expéditions polaires françaises, c'est beaucoup de bricolage au début. Ça peut paraître très amateur, sauf qu'il y a un moment, les Américains qui sont avec des moyens dispendieux, qui ont des gros avions, qui ont des grosses chenillettes, ils n'arrivent pas à aller sur la calotte glaciaire au Groenland. Et Paul-Émile Victor va être consulté parce que Paul-Émile Victor a fait une période militaire pendant la Seconde Guerre avec les Américains. Qu'il est citoyen américain, mais ce qui est intéressant de montrer dans tout ça, c'est que ces résultats scientifiques que les ex-polaires, comme on les appelait, les Français ont donné, vont nourrir la science. Et le meilleur exemple, Daphné l'a cité tout à l'heure, c'est Claude Lorius, qui dans les années 60 de mémoire, va comprendre en buvant ce whisky, en mettant des glaçons qu'il a prélevés sur la banquise, que bah, dans les glaçons et dans les glaces, il y a la mémoire du climat de notre planète. Donc rendons hommage à César, à Paul-Émile Victor et à tous ces membres des expéditions polaires. Et ça continue aujourd'hui grâce à l'Institut polaire Paul-Émile Victor, puisqu'on envoie des noriades scientifiques étudier la glace in situ, et que maintenant c'est évident d'étudier la glace avec les dérèglements climatiques, mais il faut voir que dans les années 40, 50, 60, les Français ont été des pionniers.
Et quelles sont les autres grandes découvertes des expéditions à Paul-Émile Victor ?
Ce ne sont pas forcément des découvertes, hein, d'ailleurs, c'est l'approfondissement aussi des sciences, alors qui ont commencé plus ou moins tôt, mais le XXe siècle est une explosion des sciences dites dures, de la Terre en tout cas. Ce qui est intéressant, tu disais le hiatus tout à l'heure à propos de papa, c'est que mon père, il y a une chose qui l'intéresse, c'est l'homme. C'est vraiment un humaniste de nature et de choix et de valeurs. Mais il va se consacrer complètement après la guerre aux sciences dures, comme disait Mallory en le critiquant. Mallory critiquait beaucoup Victor parce qu'il avait choisi les sciences dures au détriment des sciences humaines. Et donc, en fait, voilà, c'est la géophysique, c'est plein de choses, la climatologie. Mais quand même aussi en Terre Adélie, il y a toutes les sciences adaptées aux animaux. Donc, c'est quand même très terre à terre, on va dire. Mais comme effectivement le Groenland va être petit à petit, entre guillemets, abandonné scientifiquement parlant, en tout cas, au profit de la Terre Adélie, c'est vrai que du coup, les sciences sont beaucoup plus dures, comme on dit. Hein, c'est la physique du globe dans son aspect général.
Mais concrètement, c'est toute l'école de la glaciologie française qui est en pointe.
Principalement,
qui est incarné, en tout cas maintenant on le connaît par Claude Lorius. En sismologie, ils ont fait des choses qui étaient assez culottées. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Pierre Tchernia où il disait qu'ils emmenaient de l'hydrogène. Donc ils faisaient en météorologie des envois de ballons, ils faisaient des ballons sondes, ils faisaient des mesures. Et surtout, ils ont permis quelque part, alors il n'y a pas eu que les Français, il y a eu en tout cas en Terre Adélie, il y avait aussi les Soviétiques, il y avait les Américains, qui d'ailleurs ont par moments fraternisé, puisque quand on est par moins 40 ou moins 50, la guerre froide n'est plus froide, l'amitié devient chaude. Et ils ont réussi à déterminer l'épaisseur de la calotte glaciaire de l'Antarctique, qui est pareil que le Groenland, qui est une île recouverte de glace. Et ils se sont intéressés avec les moyens de l'époque, les moyens du bord, à la dérive des icebergs, à la formation des icebergs, à l'épaisseur des glaciers, et puis cette faune en tout cas qu'il y avait en Antarctique, et c'est Manchot Empereur que Luc Jacquet nous racontera dans un film qui reste dans les mémoires, La Marche de l'Empereur. Donc on voit que c'est français, mais il y a aussi des Norvégiens, il y avait des Argentins. Enfin, il y a une communauté scientifique qui s'est créée et qui a permis, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, de créer le continent, enfin de créer, de permettre au continent antarctique d'être une terre de science et de paix, figurez-vous. Il n'y a pas de présence militaire, il n'y a que des scientifiques en Terre Adélie et en Antarctique.
Est-ce que c'est à ce moment que Paul-Émile Victor commence à s'intéresser à la préservation de l'environnement? Est-ce que c'est via la glaciologie?
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'après la traversée du Groenland d'ouest en est qu'il a fait donc en 36 avec trois autres compagnons en prévision de son deuxième séjour au Groenland avant-guerre, il l'a fait avec son ami d'enfance et géologue Michel Pérez. Et au sortir de cette traversée de l'Inlande 6, ils se posent la question tous deux de l'impact de cette masse de glace sur l'hémisphère nord. Mais comme ça, évidemment, ça ne s'appelle pas encore l'écologie, ça ne s'appelle pas tout à fait, ou ils ne le savent pas encore, la climatologie, vous voyez, bon. Donc il y a cette idée que ça pourrait être intéressant. L'autre chose, parce que là on est sur la fin des années 50, au début des années 60, c'est encore une fois une rencontre. C'est encore une fois une rencontre. Il divorce de sa première femme, ma mère, et il rencontre assez rapidement une jeune hôtesse de l'air qui a beaucoup voyagé, qui a 25 ans de moins que lui, qui est absolument ravissante et qui, en plus, connaît bien les États-Unis pour y être allée souvent. Et Colette lui fait lire un livre, Silent Spring, Printemps silencieux, de Rachel Carson. On est dans 1962-63. C'est un livre qui parle de l'océan.
Qui parle de l'océan, puis aussi de l'utilisation abusive des pesticides dans l'agriculture américaine. Sachant que Rachel Carson est une océanographe qui va beaucoup rebondir justement sur l'océanographie, la pollution.
Voilà. Et qui développe justement cette idée qu'il faut commencer à faire très très attention à ce qu'on fait. Et Colette parle de ça à papa, qui rigole doucement dans sa barbe, qu'il n'avait pas d'ailleurs, qu'il ne portait pas, mais qui dit, oui, alors d'abord c'était une femme qui avait écrit le livre, donc déjà, c'est pas que ce soit un mauvais point, mais c'est un point de moins que si c'était un homme. Ensuite, cette ravissante Colette, qui lui dit, mais si, lis-le, finalement il se laisse convaincre. Et il se laisse vraiment convaincre, effectivement. Et il y a une espèce de prise de conscience. Et il commence à se renseigner aussi avec les mouvements de l'écologie naissante hein, aux États-Unis. On est avant le 68, tout ça c'est dans l'air du temps. Il faut savoir aussi que c'est pas du tout un vieux scrogneugneux qui vit avec les vieux, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux jeunes, qui les écoute. Il y a plein de gens qui peuvent en témoigner. Le premier c'est Nicolas Hulot, mais Jean-Louis Etienne aussi, Hubert de Chevigny, beaucoup qui sont venus le voir, comme lui est allé voir Charcot, et il les a toujours beaucoup écoutés, encouragés. Il a appris d'eux comme eux apprenaient de lui. Donc voilà, papa, il boit tout ça, il apprend, il a une curiosité de vie fabuleuse et il adhère à l'écologie effectivement.
Et dans les années 60, Paul-Émile Victor offre à ces jeunes explorateurs sa définition de l'exploration.
L'exploration, d'une façon générale, existe encore. On a tort, très grand tort, et si on utilise ce moyen-là, c'est parce que c'est très facile de se moquer de l'exploration. On parle des explorateurs, vous savez bien, nos amis chansonniers, un mois en expédition et 6 mois à Salpleyel. C'est un métier qui engage plus que n'importe quel autre métier ou autant que n'importe quel métier à fond. Et l'exploration n'est pas morte, c'est pas vrai du tout. Autrefois, on explorait, c'est-à-dire que l'on partait à la découverte de terres inconnues ou peu connues. C'est la définition pratique du Larousse, c'est-à-dire on faisait de l'exploration géographique. L'exploration géographique aujourd'hui, elle est presque morte. C'est exact. Il n'y a plus que quelques régions dans l'Antarctique, en Nouvelle-Guinée, Guesso et les autres viennent de le montrer, et peut-être dans le Mato Grosso, je n'en sais rien.
Et en Australie
régions,
aussi.
Peut-être encore en Australie, enfin quelques rares régions où l'exploration géographique est encore possible. Ça ne veut pas dire que l'exploration soit morte. C'est simplement que la définition de l'exploration d'il y a 50 ans n'est plus valable
oui,
aujourd'hui.
Mais on pourrait peut-être parler d'investigation.
Non, on peut très bien parler d'exploration. On donne tout simplement une nouvelle définition qui répond à l'exploration 1960, qui est celle-ci, la recherche scientifique appliquant les techniques de l'exploration. Ça, c'est de l'exploration 1960.
Stéphane Dugast, on sent Paul-Émile Victor quelque peu énervé, peut-être par un dénigrement de la figure de l'explorateur dans les années 60.
C'est complètement... il est vindicatif, mais ce qui est marrant, c'est que j'entends... 50 ans d'écart, la même phrase, puisque en coécrivant cette biographie avec Daphné, on a fait des rencontres, des signatures et des tournées. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais monsieur Dugast, l'exploration aujourd'hui n'existe plus comme du temps de Paul-Émile Victor. » Et ce qui est d'autant plus émouvant, c'est que Paul-Émile Victor, lui-même de son vivant dans cette archive, nous dit que l'exploration n'existe plus. Et j'ai à cœur de dire que l'exploration existe toujours. Évidemment, Paul-Émile Victor a raison, elle n'est plus géographique. Déjà de son temps, elle n'était plus géographique. Il dit qu'elle est scientifique. Et moi, j'ajouterais que maintenant, 50 ans plus tard, elle est aussi humaine, elle est aussi technique, elle est aussi technologique, elle est aussi sur l'écologie, mais pas dans l'idéologie, puisqu'il y a plein d'aventures qui existent, qui font avancer, qui font progresser aussi la science. Et ça sera toujours l'éternel débat entre explorateurs et scientifiques. Les scientifiques ont besoin de faits, de les vérifier, de les éprouver. Et c'est vrai que des fois, les explorateurs, certains en tout cas, recherchent plus peut-être la médiatisation, mais néanmoins, dans l'exploration d'aujourd'hui, on a des gens qui savent allier tout ce que nous a appris Paul-Émile Victor, la médiatisation pour pouvoir aller sur le terrain, mais et des applications, et je pense à plein de jeunes explorateurs, notamment Corentin de Châtel-Perron qui en ce moment fait un tour du monde sur un bateau en fibre de toile de jute et qui s'intéresse aux solutions low cost pour il a ses patates à bord, il a ses poules, il fait un vrai tour du monde. Il y a Christian Clos, un ami qui va s'intéresser à tout ce qui est sciences cognitives sur le cerveau. Donc on voit que le cerveau, comment s'adapte le cerveau dans des milieux difficiles. Et ce qu'on peut dire, c'est que Paul-Émile Victor, à son époque aussi, l'aventure était très personnifiée.
On vous dit régulièrement, Paul-Émile Victor était ma référence, des jeunes scientifiques, des jeunes explorateurs.
Paul-Émile Victor a laissé un legs scientifique qui est important. Mais ce legs scientifique, il a mis du temps à le réacquérir, puisque figurez-vous que quand il a fait ses expéditions et ses explorations au Groenland avant-guerre, il a amassé un matériel complètement incroyable. On l'a entendu en début d'émission, des chants, des dessins, des écrits. Et il avait fait une véritable enquête ethnologique, comme lui avaient appris ses pères, Marcel Mauss, le professeur Rivet, qui étaient des sommités de ce qu'allait devenir le Musée de l'Homme. Et par bien des aléas, est-ce que c'est la faute de son compagnon? Enfin, tout ça, on le raconte dans la biographie. Toujours est-il qu'au décès d'un de ses meilleurs amis et meilleurs ennemis, pourrait-on dire, il va retrouver ses carnets d'expédition qui, pendant 50 ans, il n'a pas eu accès. Donc, il faut imaginer que vous avez une trentaine d'années et que pendant 50 ans, ce que vous avez fait de scientifique, vous n'y avez plus accès. Donc, vous ne pouvez plus du tout prouver que vous êtes scientifique. Et à l'aube de ses 80 ans, il retrouve ses carnets de jeune homme. Et ces carnets, il va les remettre en forme avec une jeune ethnologue spécialiste, Joël Robert Lamblin. Ils vont publier La civilisation du phoque en 1987, en deux tomes, qui racontent de façon technique, mais aussi très exhaustive, cette civilisation esquimo. Et à 80 ans, ce qui est touchant, il va être réhabilité. Et on a retrouvé cette anecdote de Lévi-Strauss, hein, l'inauguration d'une exposition dans le Musée de l'Homme, je crois, de mémoire, où Claude Lévi-Strauss, quand la civilisation du phoque va sortir, lui posera la main sur l'épaule et lui dira une phrase du genre « Ah, enfin, Paul-Émile, vous êtes un des nôtres et vous avez mis du temps ». Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il laisse un legs scientifique très très conséquent, important et qu'a failli être complètement oublié.
Merci à Daphné Victor et à Stéphane Dugast pour ces voyages au pôle et dans l'univers intime de Paul-Émile Victor. La série Les grandes expéditions scientifiques se réécoute et est disponible en podcast sur franceculture.fr. Cette série vous est proposée en partenariat avec Science et Vie. Une émission produite par Arnaud Contreras, réalisée par Anna Smuk. Prise de son, Pierre Mine et Jean-Louis Deloncle. Mixage, Jean-Louis Deloncle.
Ancestral.